Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. Vous avez entendu Amandine un instant, c'est tous les jours l'info jusqu'à 13h. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le parcours du Tour de France 2022. Marine Le Pen qui promet, si elle est élue, de détruire toutes les éoliennes. Et puis la mozzarella qui détrône le camembert, un comble au pays du fromage, non?
Deux débats à partir de 12h40. Marine Le Pen est-elle en train de changer de stratégie à l'égard d'Éric Zemmour? Ce matin, la candidate du Rassemblement National a été très aimable avec Éric Zemmour. Et puis à 12h50, je l'ai dit, Paris qui se vide, de plus en plus de Parisiens quittent la capitale. Le phénomène s'accélère.
Notre question du jour sur RTL.fr, présidentielle 2022. Vous intéressez-vous à cette élection? Vous dites oui à 63%. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Amandine.
Et c'est un beau soleil pour tout le monde.
Et oui, pas grand-chose à signaler. Une journée automnale comme on les aime, avec un beau ciel bleu sur l'ensemble du pays. Ça reste tout de même un peu plus nuageux sur la frontière belge. Un ciel variable sur les Alpes-Maritimes, mais du soleil et la fraîcheur matinale, on l'a bien ressenti ce matin. Ça va
vous
se radoucir.
Aviez prévenu.
Voilà, ça va se radoucir cet après-midi. 15 degrés à Nancy, 17 à Paris, Lille et Caen, 20 degrés à Bordeaux et Nîmes et 21 à Tarbes et Toulon.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et ça y est donc, on sait dans le détail à quoi ressemblera le Tour de France 2022. Le parcours a été dévoilé il y a quelques minutes au Palais des Congrès de Paris, Nicolas Georgerot.
Oui, sous les yeux notamment de Tadej Pogacar, le double vainqueur de la Grande Boucle, et de Julien Alaphilippe dans cet auditorium. Ce parcours exigeant s'est affiché. Après 3 jours au Danemark, le Tour arrivera dans les Hauts-de-France, Dunkerque, Calais. Une étape avec 11 secteurs pavés entre Lille et Arambert. Puis l'Est de la France, Longwy, Dole, la Suisse ensuite avec Lausanne, 4 jours dans les Alpes, Megève, une arrivée au sommet du col du Granon à 2413 mètres d'altitude, l'Alpe d'Huez le lendemain, le 14 juillet, direction ensuite le Massif central, passage par Saint-Étienne, Mende, Rodez et les Pyrénées avec Pays Ragude et Otakam. Le Tour 2022 terminera par 2 jours dans le Lot et un contre-la-montre individuel autour de Rocamadour de 40 km. La dernière étape se fera entre Paris-La Défense et les Champs-Élysées avec une boucle dans les Yvelines.
Nicolas Georgerot depuis le Palais des Congrès de Paris pour RTL. Cette 109e édition du Tour, on le rappelle, aura lieu entre le 1er et le 24 juillet. Le premier Tour de France femme, lui, partira le 24 devant la Tour Eiffel. Christian Prudhomme, le patron du Tour, sera l'invité d'RTL Soir tout à l'heure. Autre événement sportif à venir, les JO 2024. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin sur le chantier du village olympique en Seine-Saint-Denis. Le chef de l'État annonce la construction de 5000 équipements sportifs de proximité, 500 skateparks, des piscines mobiles, mais aussi des dojos en rez-de-chaussée des immeubles. Les dojos, vous savez, ce sont ces salles où l'on pratique les arts martiaux, notamment le judo. Écoutez Stéphane Nomis, c'est le président de la Fédération française.
Les bailleurs sociaux, ils nous mettent à disposition des locaux vides qu'ils ont dans les quartiers, dans les QPV. Ils ont 40% des rez-de-chaussée sont vides. On les rénove et on s'occupe de toutes les classes. Moi, je suis issu des cités. Donc, je suis l'exemple parfait de ce qu'on peut faire avec le judo dans un quartier, avec les valeurs du judo. Tu peux faire du judo pour les enfants. Tu peux faire du jujitsu, donc de la self-défense pour les femmes le midi. Tu peux t'occuper de nos parents en faisant du taïso, parce que de la gym douce. Nous, on touche toutes les populations d'une cité.
Et Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo au micro RTL d'Isabelle Langer.
Et en marge de ce déplacement, Emmanuel Macron est revenu sur la hausse des prix de l'énergie.
Le gouvernement est mobilisé, vous le savez, depuis le début sur ce sujet. Il est important parce qu'il touche tous nos compatriotes. Il touche parfois encore plus durement nos compatriotes les plus modestes, celles et ceux qui ont des déplacements contraints et qui sont donc obligés de faire le plein chaque jour. Il y a une action de court terme qui est en effet d'accompagnement des ménages. Et le gouvernement y travaille et aura dans les prochains jours à compléter sa réponse en fonction de l'évolution pour ne laisser personne dans le désarroi.
Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
On vient de l'entendre, hein, le gouvernement travaille sur le sujet, la question du carburant notamment. Première option, on en parle beaucoup ces derniers jours, que les distributeurs fassent un geste, qu'ils baissent leur marge, mais ça a priori ça ne suffira pas.
Bah non, ça ne suffira pas parce que les hypermarchés ne dégagent que 1 à 2 centimes de marge par litre. Donc si la grande distribution vendait carrément vraiment à prix coûtant, ça signifie que vous gagneriez entre 50 centimes et 1 oui. euro pour un plein. Donc, pas très visible pour vous, mais lourd pour les commerçants. En revanche, le gouvernement a raison de se tourner vers les chaînes de magasins parce que 60% du carburant en France est maintenant écoulé dans les stations-service des hypermarchés.
Autre solution, les taxes de l'État.
Oui, alors là, c'est ce que les Espagnols et quelques pays européens vont faire. 60% de taxes hein, sur un litre en France. Donc, sur un litre de gazole à 1,54€, l'État touche 86 centimes. Vous avez une petite marge de manœuvre. D'ailleurs, en 2012, lors d'un gros pic sur les prix, le gouvernement avait baissé le prix du litre d'essence de 6 centimes en cumulant baisse de taxes et baisse de la marge des distributeurs.
Et alors le chèque carburant, ça c'est possible ?
Alors c'est possible, mais là c'est un peu un piège parce qu'un chèque carburant, ça soutient les énergies fossiles d'abord. Mmh. Donc quand on veut décarboner le monde, c'est pas parfait. Et puis surtout, en général, vous aidez les ménages les plus pauvres. Et vous mécontentez donc les classes moyennes inférieures qui n'ont jamais droit à un coup de pouce. Ce sont les Français qui travaillent, qui paient des impôts, qui ont du mal à boucler les fins de mois, c'est-à-dire le portrait robot des Gilets jaunes.
Martial Youssef, chef du service économie de RTL. Marine Le Pen, elle était l'invitée d'RTL ce matin. On a parlé carburant, mais aussi éolienne. La candidate du Rassemblement national assure d'ailleurs qu'elle les détruira si elle est élue.
J'arrête toute nouvelle construction de parc éolien et je lance un grand chantier pour les démonter même, vous voyez ? Voilà. Donc au moins c'est clair, vous voyez ?
Démonter tous les mâts.
Et Virginie Garin, démonter les éoliennes, toutes les éoliennes, c'est possible ça ?
Ah bah, tout est possible, hein, mais ça veut dire qu'on va refaire de l'électricité avec du charbon et du gaz, car l'éolien aujourd'hui, c'est en moyenne 8% de notre production, avec des pointes à 20% certains jours. Alors comment vous compensez ? Il est impossible techniquement d'augmenter la production nucléaire, il est impossible de construire des réacteurs avant au moins 15 ans. Donc, il va falloir du charbon, changer la loi qui prévoit la fermeture des centrales à charbon, il va falloir développer le gaz au prix où il est, ça va se sentir sur notre facture. Et puis l'éolien permet aujourd'hui à la France d'éviter 17 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Si vous le supprimez, selon RTE, qui gère le réseau, vous doublez les émissions de carbone de notre production électrique et vous faites une croix sur les engagements français de lutte contre le changement climatique.
Merci beaucoup Virginie.
Donc ça veut dire que c'est pas possible concrètement, c'est intéressant. Ce qu'elle a dit ce matin, c'est nul et non avenu, ça ne peut pas se faire.
Ah bah les personnes qui travaillent dans la filière parlent d'incompétence sur l'énergie.
Parce c'est ça.
On ne peut pas absolument pas respecter nos engagements climatiques et on fera augmenter la facture des Français.
Bon, on reviendra sur notre sondage BVA à 12h40, hein, qui donne toujours Marine Le Pen devant Éric Zemmour, mais l'écart se réduit entre 16 et 17% pour elle, 13 et 14% pour lui. Et puis on évoquait à l'instant les éoliennes. Sachez que le tribunal administratif de Paris ordonne à l'État de réparer ses engagements non tenus de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est la suite de ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. La plainte de ces quatre ONG soutenue par une pétition qui avait rassemblé plus de 2 millions de signataires. Dans l'actualité également, l'horreur dans les une femme de 77 ans a été retrouvée décapitée dans sa maison à Agde. Patrick Hisson, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, dans ce quartier pavillonnaire tout près de la rivière l'Hérault, on aperçoit une cinquantaine de mètres les volets bleus fermés de la maison où s'est déroulé le drame. Tout autour, en périmètre de sécurité, empêche pour l'instant de s'approcher au moment où la police scientifique est toujours en train de travailler. Ce que l'on sait, c'est que l'alerte a été donnée hier par le fils de la victime qui habite en région parisienne grâce à une surveillance vidéo partielle où il a aperçu un corps au sol et semble-t-il beaucoup de désordre dans cette grande maison. Dans le quartier, c'est évidemment avec stupeur que les habitants ont appris la nouvelle. Cette infirmière y travaillait ce matin.
C'est de la stupeur, de l'étonnement.
Là, vous sortez de chez une patiente qui la connaissait.
Ma patiente la connaissait, donc elle est bouleversée. Elle a eu un petit mot de la police, lui disant de les recontacter très rapidement. Et il y a de l'angoisse.
À leur arrivée hier soir, les policiers ont découvert la tête de la victime posée sur la table de la cuisine. Ils ont également trouvé des gants ensanglantés abandonnée dans le jardin. La femme assassinée était âgée de 77 ans et habitait ici depuis 2 ans seulement. Quant à l'enquête, elle pourrait progresser assez vite dans la mesure où, grâce aux nombreuses caméras du quartier, eh bien, un homme aurait été identifié et serait activement recherché.
Patrick, ils sont à Agde pour RTL. Dans l'affaire Jubilard, les résultats des dernières analyses menées sur la machine à laver du couple et a priori rien de très probant, Guillaume Chiez.
Oui, des prélèvements avaient été effectués le lendemain de la disparition de Delphine Jubilard. Un dans un siphon de la salle de bain, l'autre dans la machine à laver. Dans les deux cas, les analyses sont revenues négatives selon les avocats de la défense. Pas de traces de sang. Un nouvel élément à décharge selon maître Jean-Baptiste Allary, un des avocats de Cédric Jubilard, qui estime que le dossier contre son client est vide.
Le dossier ne comporte pas d'évolution. On est à peu de choses près. Et je vous dirai très, très honnêtement, des choses infimes, voire insignifiantes, dans les mêmes conditions que le 18 juin ou le 16 juin plus exactement, lors de son placement en garde à vue, et rien n'a fondamentalement évolué.
Reste une analyse qui n'a toujours pas été effectuée, celle de la couette que Cédric Jubilard a lavée après la disparition de sa femme. Demain marque une nouvelle étape dans cette affaire. Cédric Jubilard sera confronté pour la première fois au juge d'instruction pour une audition fleuve, la première depuis sa mise en examen et son placement en détention provisoire.
Précision signée Guillaume Siez. Sachez par ailleurs qu'il n'y aura désormais plus de matchs de foot professionnels le 5 mai. Le Sénat a en effet voté la proposition de loi en hommage aux victimes de la catastrophe du stade Furiani. La loi, cette proposition de loi, est donc désormais définitivement adoptée par le Parlement. Et puis à l'étranger, au Liban, une personne a été tuée, 8 autres blessés lors d'échanges de tirs pendant une manifestation à Beyrouth. Manifestation pour réclamer le limogeage du juge en charge de l'enquête sur l'explosion du port il y a un peu plus d'un an. Et puis en Norvège, la police indique que l'auteur de l'attaque à l'arc qui a fait 5 morts hier est un Danois de 37 ans converti à l'islam. Il avait par le passé été en contact avec la police pour des craintes justement de radicalisation.
Dans un tout autre registre, cette première, la mozzarella, détrône le camembert.
Et oui, pour la première fois, les ventes du fromage italien dépassent celles de notre bon vieux fromage à pâte molle, le plus vendu jusqu'ici, Nery. Ça et Mani, vous êtes allé vérifier tout ça dans une fromagerie de la région parisienne.
De la mozzarella, Jean-Claude, fromager depuis 20 ans, en a tout un rayon.
J'ai la bocconcine, c'est des petites boules, des boules cerises un peu. Après, vous avez la burrata qui est devenue maintenant à la mode, c'est terrible.
Lui préfère le camembert, mais il a dû s'adapter à la demande de sa clientèle qui veut de plus en plus de mozzarella.
C'est vrai que moi, je fais mes achats sur Rungis deux fois par semaine et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de vendeurs de mozzarella. Pour vous dire, lundi, j'en ai pris 6 colis quand même, 6 fois 8, une cinquantaine. Ça me fait la semaine, ouais, je tourne à peu près autant de camembert que de mozzarella.
Parmi ses clients, certains ont même abandonné le camembert.
Tomate pozza, c'est comme beefsteak frites, quoi. C'est un classique, oui.
Je mange plus de mozzarella, oui, parce que je suis très friand des nouvelles choses. Je pense que le camembert, on reste vraiment dans des produits qui restent dans du terroir, dans les préparations ancestrales. Alors que la mozzarella, il y a plusieurs variétés différentes. C'est normal que la mozzarella prenne le pas sur le camembert.
Incompréhensible pour ce mordu de camembert.
Moi, j'aime le camembert. Ça sent bon, il faut qu'il soit coulant un peu, bien fait. Non, moi, la mozzarella, ça doit être un effet de mode.
L'envie de mozzarella passera avec l'arrivée de l'hiver, ajoute ce client qui me conseille pour ce soir un petit camembert au four.
C'est bon le camembert au four, non ?
Et je ne mange pas de fromage.
Ah bon ?
J'en ai jamais mangé.
C'est vrai ? Du tout ?
Je n'ai jamais mangé de fromage de ma vie.
Et pourquoi vous aimez pas ça?
Je sais pas, c'est comme ça. Marine Le Pen, en tout cas, est en train de changer de stratégie à l'égard d'Éric Zemmour. Elle a été très gentille ce matin, ça a été étonnant même de l'écouter. Elle a par exemple appelé Zemmour Éric, ce qui est toujours un signe de familiarité. Éric par-ci, Éric par-là. Donc est-ce qu'elle change de stratégie? À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Je connais Eric et je pense que pour une partie qui est une partie importante, qui est l'immigration et l'insécurité, nous faisons le même constat. Donc nous serons amenés à un moment donné ou à un autre à faire le rassemblement, parce que quand on aime la France, on se doit d'agir et d'œuvrer pour le rassemblement.
Marine Le Pen qui évoque un possible rapprochement avec Éric Zemmour, c'était ce matin sur RTL. Alors changement de stratégie assumé ou pas, contraint et forcé ou pas, c'est le premier débat d'RTL Midi. On en parle avec William Galibert du service politique de RTL et Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA, qui a réalisé donc cette enquête dont on vous parle sur RTL depuis ce matin. On va y revenir dans un instant, Édouard. William, d'abord, une chose est sûre, le ton de Marine Le Pen à l'égard d'Éric Zemmour a changé.
Oui, on a surtout l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment se positionner face à Éric Zemmour, elle ne sait pas comment inverser ces dynamiques qui sont totalement inverses. Elle se casse la gueule globalement depuis plusieurs semaines, lui grimpe en flèche. En fait, c'est un tango Zemmour-Le Pen, mais c'est pas elle qui mène la danse. Mmh. Et c'est bien ça son problème. Donc, un coup, on la sent énervée, en colère. Il y a à peine une semaine, à Clermont-Ferrand, au salon de l'élevage, elle disait, elle s'adressait directement à Éric Zemmour, elle lui disait, un peu de loyauté, un peu d'honnêteté politique, il faut maintenant qu'il soit candidat. Et là, vous l'avez entendu, elle joue du prénom d'abord, c'est pas anodin de l'appeler Éric, je le connais, nous serons amenés à faire le rassemblement. Donc, l'énorme difficulté qu'elle rencontre Marine Le Pen, c'est que les deux électorats Zemmour-Le Pen sont à priori compatible, donc elle ne peut pas taper trop fort contre ces gens qui seraient attirés par Éric Zemmour, et elle se dit qu'il y a des vases communicants, mais en fait pour l'instant ça ne communique pas, pour l'instant c'est juste une opération de siphonnage massif de l'électorat de Marine Le Pen vers Éric Zemmour.
Édouard Le Cerf, si on regarde justement les derniers résultats du sondage BVA Orange pour RTL publié ce matin, Marine Le Pen est toujours devant Éric Zemmour. 16-17% pour elle, 13-14% pour lui.
Oui.
Mais elle serait bien au-dessus s'il n'était pas là, s'il n'était pas candidat.
Alors évidemment, pour reprendre ce que vous disiez, il n'y a pas une capacité à reverser l'intégralité de ce qu'est aujourd'hui, ce que sont ses intentions de vote pour Éric Zemmour, dans les désintentions de vote pour Marine Le Pen. Parce que lorsque vous regardez le score de Marine Le Pen sur les premiers tours, elle est mesurée seule, vous venez de le dire, on est autour de 24-25%. Si on fait le total de Éric Zemmour et de Marine Le Pen lorsqu'ils sont tous les deux, on est au-dessus des 30%. Donc il y a forcément une part qui vient d'ailleurs. Mmh. Il y a une part qui vient de la droite traditionnelle. On le voit bien, les candidats de droite tels qu'on les a mesurés, chacun avec ou sans Éric Zemmour, eh bien, ne sont pas exactement à ce niveau-là. Donc il y a une partie de la droite qui partirait. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui aujourd'hui, en intention de vote, dans ce moment particulier, très en amont du moment du vote réel, que tout cela se reporterait sur Marine Le Pen.
Parce qu'on ne connaît toujours pas le candidat LR aussi. Ça complique encore beaucoup la donne, j'imagine.
Évidemment, vous avez encore à droite, sans doute, ce qu'en physique, on appellerait des électrons libres. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment, le noyau central n'existe pas encore vraiment, donc il est difficile de s'y accrocher. Donc voilà, mais l'électron libre, c'est celui qui est moins proche du noyau et donc qui a tendance à pouvoir aller voir ailleurs.
Est-il exact de dire que Marine Le Pen touche des électeurs de couche plus populaire et Éric Zemmour de CSP+ ?
Alors, c'est aller un peu vite en besogne, c'est-à-dire c'est un peu schématique. Mais c'est vrai, d'une certaine manière, que lorsqu'on regarde le profil des électorats, l'électorat du Rassemblement National en général, de Marine Le Pen, dans ses intentions de vote, est un électorat qui est un peu plus populaire que celui d'Éric Zemmour, qui vient, on le sait, hein, on l'a vu dans d'autres enquêtes, il y a une partie de l'électorat potentiel d'Éric Zemmour qui vient de la droite, on vient de le dire, plus traditionnelle, donc avec des catégories socioprofessionnelles un peu supérieures. Mais il n'y a pas un contraste énorme.
En revanche, il y a un contraste dans les âges. Elle parle plus aux jeunes et
oui,
j'allais dire
mais là aussi, c'est une caractéristique assez ancienne, même si les choses ont un peu changé avec Emmanuel Macron et dans les intentions de vote, encore une fois. Mais c'est vrai que le Rassemblement national a aussi été, au cours des dernières échéances électorales, moins sur les municipales, parce qu'il est moins présent, moins sur le régional, mais un parti qui a eu tendance à attirer un certain nombre de jeunes, ceux qui allaient voter. Je vous rappelle que les premiers partis des plus jeunes, c'est l'abstention.
Il y a les chiffres, et puis il y a également ce qu'on appelle les items, la crédibilité, la confiance, etc. Est-ce que lorsque vous comparez Marine Le Pen et Éric Zemmour, il y en a un qui est meilleur que l'autre ?
Alors, on ne l'a pas comparé, en tout cas pas dans notre enquête pour RTL et Orange, on n'a pas fait ce comparatif-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir des enquêtes qui les comparaient, qui les mettaient en perspective. J'allais dire, vous avez raison de parler de ces items-là, mais aujourd'hui, on est encore une fois très en amont de la campagne. Donc, on va être sur des représentations, sur des projections.
Moi, je le demandais pas comme une comparaison, pour tout vous dire. J'avais été frappé au printemps de voir que les items, c'est un mot un peu technique, de Marine Le Pen étaient très faibles. C'est-à-dire, est-ce que vous avez confiance en elle ? Pas beaucoup. Est-ce que sa crédibilité importante ? Pas énormément. Elle avait, de ce point de vue-là, un très grand déficit. Alors, Éric Zemmour, effectivement, lui faudra voir s'il est meilleur sur ces points-là. Mais j'avais été frappé que, malgré un bon score, elle avait des items faibles.
Oui, il a un certain nombre de caractéristiques, qui sont des caractéristiques qu'elle partage avec le Rassemblement National, qui sont des caractéristiques... Une des énormes difficultés, c'est ce qu'on appelle la capacité à gouverner. Les Français ne lui reconnaissent pas forcément cette capacité à gouverner.
Et puis, il y a autre chose qu'on a noté dans ce sondage avec Amandine ce matin, qui là, pour le coup, concerne à la fois Éric Zemmour et Marine Le Pen. Leur thème de campagne traditionnelle, immigration, identité, laïcité, arrive assez bas, finalement, quand on demande aux Français ce qui fera la différence au moment de voter.
Oui, 13e, l'immigration.
Oui, mais là, les gens mentent.
Bah, attendez. Dans ces cas-là, ils mentent pour tout.
Vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez voir à la télévision, ils vous disent Molière, Corneille.
Mais non, là, ils parlent de santé. Ils parlent santé, pouvoir d'achat.
Voilà, exactement.
Et retraite.
Exactement, des choses extrêmement concrètes. La santé, on est dedans. On est effectivement à la sortie d'une période de 2 ans et on est encore dedans. Le Covid marque son empreinte de manière évidente. Le pouvoir d'achat, on l'a dit la dernière fois qu'on s'est vu, le pouvoir d'achat est une préoccupation sans cesse montante qui d'ailleurs va poser un problème à Emmanuel Macron. Ça fait ressortir son aspect président des riches hein, par contraste, par défaut. Et puis les éléments tous qui sont liés à l'assurance sociale, la capacité à pouvoir protéger les Français, ce sont des éléments. Et donc, c'est normal que ça arrive en priorité.
Vous êtes tellement précis, tellement excellent, tellement pédago que vous avez gagné un quart d'heure d'antenne en plus et que vous allez pouvoir échanger avec les auditeurs, ce qu'on ne permet pas à tout le monde, croyez-moi, monsieur Le Cerf. Donc, merci. C'est un honneur pour vous et évidemment surtout pour les auditeurs qui vont pouvoir vous interroger. Mais attendez, vous restez aussi.
Je vais aller manger un peu de camembert, moi.
Non, parce que c'est intéressant, les auditeurs. Et d'abord, sur les sondages, je suis sûr qu'ils ont des avis sur les sondeurs.
Oui, je n'en doute pas.
Donc, c'est pas la même chose.
Vous savez ce que disent les sondés en premier, quoi, les gens qu'on interroge dans la rue. Moi, j'ai jamais été sondé. Donc, ils se demandent si c'est vrai. Vous savez, c'est comme les numéros du loto. On se demande si vraiment quelqu'un a gagné un jour.
Statistiquement, c'est normal.
12h52, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la faire.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Et on a fait un enfant, deux enfants, trois enfants. On vit dans 45 mètres carrés à Paris. On a cherché à se loger à Paris, on n'a pas trouvé. J'ai échangé un appart de 50 mètres carrés contre une maison de 150 avec un terrain de 3000 mètres carrés, avec une piscine immense. Là, je sais que je vais être dehors tout le temps.
Julien a quitté Paris pour le sud de la France et comme lui, de plus en plus de Parisiens fuient la capitale. La preuve avec ce nouveau chiffre que RTL vous a dévoilé ce matin, les biens immobiliers mettent aujourd'hui en moyenne 3 fois plus de temps à se vendre à Paris en tout cas. Bonjour Aurélia Valarier.
Bonjour.
Cette tendance n'est pas nouvelle, mais la pandémie a clairement accéléré le mouvement.
Et oui, avec les confinements consécutifs, les Parisiens ont envie de changer d'air. Ils ne supportent plus les petits espaces, surtout avec l'arrivée du télétravail. Les familles avec des enfants rêvent d'un extérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 9 Franciliens sur 10 ont comme critère principal d'achat le fait d'avoir une terrasse ou un jardin, selon les derniers chiffres du groupe Se Loger. Et c'est assez rare de trouver ce type de bien dans la capitale, surtout à des prix abordables. Alors, ils décident de partir. Et pour observer cette tendance, il suffit de demander aux agents immobiliers. Grégoire Narcisse tient une agence dans le 19e arrondissement.
On a beaucoup plus d'appartements à la vente qu'il y a un an ou un an et demi. Le nombre d'acheteurs, pour autant, n'a pas augmenté, si ce n'est qu'il a baissé, dû à ce simple constat du fait que énormément de Parisiens aujourd'hui ont pour projet de quitter Paris. Si c'est pas maintenant, c'est à court terme, à moyen terme.
Et la conséquence de ce déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est que les biens mettent beaucoup plus de temps à se vendre, comme l'explique son associé Olivier Verdon.
Au lieu de vendre autrefois en 48 heures, en une journée, aujourd'hui les appartements les vendent entre 3 semaines et 45 jours.
3 semaines à 45 jours au lieu de 3 jours auparavant. Ça concerne tous les arrondissements ?
Alors quasiment, l'ensemble des arrondissements sont concernés, même si évidemment certains le sont plus que d'autres. Par exemple, dans le 8e arrondissement, la maire estime qu'elle a perdu environ 10% de sa population familiale depuis le premier confinement. Et c'est à peu près le même constat dans le 15e. Les familles désertent depuis quelques années. Écoutez le maire Philippe Goujon.
C'est à peu près 2000 personnes qui quittaient le 15e depuis 2 ou 3 ans. Ce qui fait en gros entre 300 et 400 familles par an. Cette année, par exemple, où il y a quand même un exode un peu plus massif au niveau de l'éducation nationale. C'est 600 élèves de moins qui sont accueillis dans les écoles du 15e arrondissement. Ça fait des années que Paris perd des habitants, mais là, j'ai l'impression que ça s'accélère.
Et ces familles se déplacent soit en banlieue parisienne, soit elles décident tout simplement de quitter définitivement l'Île-de-France.
Justement, ils vont où, ces Parisiens ?
Alors, selon l'enquête du groupe Se Loger, entre septembre 2020 et avril 2021, les Franciliens cherchaient surtout des annonces immobilières dans le Grand Est, plus 17% durant cette période. Dans les Pays de la Loire, plus 13%. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur attire aussi énormément les Parisiens.
Dans le Grand Est, donc en priorité. Ça vous étonne pas, Pascal, ça ?
Ça m'étonne pas du tout, parce que les gens en ont assez de vivre, comme le dit Aurélia, dans 40 mètres carrés, pour un salaire parfois qui est très, très difficile.
C'est vrai.
Merci Aurélia, en tout cas, pour toutes ces explications.
Marine Le Pen donc est en train de changer de stratégie, ça va vous faire réagir dans une seconde. On va rester avec Édouard Le Cerf qui est directeur de BVA et qui va être avec William Galibert pour commenter cette actualité politique. C'est vrai qu'on parle beaucoup, j'ai l'impression qu'on parle davantage de la présidentielle à ce moment de l'année que les autres saisons.
Non, c'est un biais de confirmation.
Ah bon ?
Non, non, bien sûr, on en parlait tout autant. Vous
et il y a 5 ans, c'était le phénomène
en septembre-octobre.
Oui, oui, septembre, oui. On se demandait si François Hollande serait candidat.
On se posait la question exactement qui allait être le candidat. Bah oui.
Eh bien, j'ai dit une bêtise. 12h, c'est assez rare, je précise. 12h58, à tout de suite.